Bonjour à tous. Comme vous le savez, traditionnellement, une fois par an, nous consacrons quelques dimanches à un enseignement plutôt qu'à des prédications. Donc, en 2019, c'était sur l'argent. En 2020, c'était sur le Saint-Esprit. En 2021, c'était sur l'Église, avoir une Église foisonnante de vie, une Église organisée, une Église qui grandit. Et cette année, nous allons aborder un autre sujet, un autre enseignement que nous allons commencer aujourd'hui et que je vais continuer pendant quelques dimanches. Donc, comme ça, vous savez que c'est une occasion. Alors, comme je le dis chaque année, avoir un enseignement un dimanche matin, ce n'est pas idéal, ce n'est même pas du tout adéquat, puisque le mieux, c'est qu'on puisse quand même avoir des moments d'échange, qu'on puisse avoir des questions, des réponses, ce qui n'est pas possible le dimanche. Mais voilà, à défaut d'avoir autre chose, nous consacrons cela à des dimanches. Et aujourd'hui, donc, nous allons entrer dans une nouvelle thématique. Alors, je sais qu'il y en a énormément qui sont nécessaires à aborder, mais on chemine pas après pas, on ne sait pas tout faire en même temps, surtout que les dimanches, on n'a pas beaucoup de temps, donc voilà. Ça allait tout à l'heure, mais je vais... Ah oui, ce serait une bonne idée, ça. Je vais essayer de le mettre ici. C'est bizarre, tout à l'heure, ça marchait très bien. Ah, voilà. Il arrive très souvent que notre foi soit un peu comme ça. C'est-à-dire une foi dans laquelle nous avons tout un ensemble d'éléments qui sont présents, qui sont clairs, tout un ensemble de sujets sur lesquels nous sommes à peu près au clair, et très souvent, il reste des morceaux du puzzle qui nous manquent pour pouvoir avancer dans notre foi et pour pouvoir plaire à Dieu. Et donc l'ambition ou le but de ces moments d'enseignement, c'est un à un de combler ces petites pièces de puzzle qui peuvent parfois nous manquer dans notre foi chrétienne, pour aller de l'avant et pour glorifier le Seigneur. Et donc ce thème vient ici comme cette pièce dans ce puzzle, en espérant que ça pourra combler certains déficits dans notre vie de prière, dans nos relations, dans notre foi. Et Olivier, tu veux bien reprendre parce qu'il me... Voilà. Nous allons parler du monde spirituel. Aujourd'hui, et c'est un thème qui se colle bien avec le thème du Saint-Esprit, qui est le thème que nous avons fait il y a 2 ans, et un thème qui permet peut-être aussi d'ouvrir certaines portes qui sont parfois fermées. Tu peux passer à la suivante. Alors, l'importance de connaître certaines choses, la Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Il est important que nous puissions apprendre à connaître tous les thèmes qui sont abordés dans la Bible, parce que ce verset nous dit que le peuple de Dieu périt, le peuple de Dieu est mis en difficulté par le fait qu'il lui manque la connaissance, ou en tout cas que certains sujets manquent au peuple de Dieu, une certaine connaissance nous manque. Et là, le terme est très fort, il dit « mon peuple périt, mon peuple est en détresse, mon peuple est en destruction, parce qu'il lui manque des choses qu'il ne connaît pas pour pouvoir avancer. » Et donc l'Église doit être un lieu où l'on n'accepte pas le manque de connaissances, où on n'accepte pas l'ignorance, d'autant que Dieu fait un travail important a fait un travail important dans sa parole au travers des siècles pour que nous sachions certaines choses. Dieu s'est exprimé sur certains sujets. Il a montré sa volonté sur plein de choses. Et donc, pourquoi ferions-nous l'erreur de vivre dans l'absence de la connaissance des choses de Dieu. Le manque de connaissance nous perd car il nous dépouille des outils nécessaires pour vivre selon Dieu. Lorsque nous connaissons ce que Dieu dit, lorsque nous connaissons ce que Dieu nous enseigne, nous sommes en mesure de vivre comme il veut, de réagir aux choses en fonction de sa volonté. Mais lorsque nous n'avons pas un certain nombre de connaissances, nous sommes un peu dépouillés et nous faisons du bric-à-brac. Et à un moment donné, parfois, il arrive des conséquences dans notre vie chrétienne où on ne comprend pas, on se dit « mais comment c'est possible? Comment ça s'est passé ?» Ben oui, parce qu'il te manquait la connaissance de cette chose-là et en ne sachant pas un certain nombre de choses, tu as commis des erreurs. Vous savez qu'il y a quelque chose qu'on dit beaucoup, c'est que le manque de connaissances, le fait de ne pas savoir, ne nous protège pas. Ce n'est pas parce que nous ne savons pas quelque chose que nous sommes protégés. D'accord ? Et on en a déjà parlé beaucoup ici. Si vous n'êtes pas au courant, imaginons qu'on ne vous ait jamais dit que le feu brûle, le feu va quand même vous brûler. Imaginons que vous ne soyez pas au courant que vous devez avoir un certificat d'immatriculation pour rouler. La police va quand même vous verbaliser parce que vous devez le savoir. Donc il y a des choses que nous devons savoir. On dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Et dans l'Église, on devrait dire « nul n'est censé ignorer la Bible ». Nul n'est censé ignorer ce que la Bible dit. On peut aller à la suivante. La connaissance du monde spirituel. Notre monde, le monde dans lequel nous vivons, est un monde spirituel. Nous sommes entourés d'anges, de démons, d'esprits, de puissances spirituelles. Et la Bible ne conçoit pas que nous ignorions ces réalités-là. Nous sommes censés avoir les yeux ouverts et être conscients de tous les enjeux liés au monde spirituel. Alors vous allez dire, oulala, parler du monde spirituel un dimanche, mais ils sont fous, les enfants vont avoir peur, ils vont se dire, ouyaya, qu'est-ce qui se passe ? En réalité, si vous lisez les évangiles ne parlent que de ça. On voit Jésus chasser des démons, on voit des manifestations démoniaques partout. Ça fait partie, c'est un sujet essentiel en réalité. Ce n'est pas un sujet périphérique, ce n'est pas un sujet qui doit nous faire peur, c'est un sujet pleinement biblique. Et c'est un sujet qui ne doit pas nous faire peur non plus, puisque, comme nous avons eu l'occasion de le dire dans le moment de louange, nous sommes dans une position de victoire par rapport à ces choses-là. Mais malgré tout, nous devons savoir, nous devons connaître et nous devons en parler. Et je dirais que ici, il n'y a pas d'enfants, mais même s'il y en avait, ce n'est pas une mauvaise chose qu'ils entendent parler de tout ça, parce que de toute façon, ils y seront confrontés. Parce que nous sommes dans un monde spirituel. Nous sommes dans un monde fait de puissance, d'autorité, de réalité spirituelle. Un chrétien qui ignore le monde spirituel et qui ignore le combat spirituel est en danger. C'est un homme ou c'est une femme qui est vulnérable, qui est en danger, parce qu'il ignore dans quel environnement il est. On peut aller à la suivante. Le but de cet enseignement, c'est donc de remédier au manque de connaissances que l'on peut avoir du monde spirituel et du combat spirituel. C'est de présenter l'enseignement biblique sur le monde spirituel, sur les forces spirituelles. Et c'est aussi un objectif, c'est de donner à chacun d'entre nous les outils nécessaires pour réagir à des situations qui impliquent des forces ou des réalités spirituelles. On peut passer. Nous allons donc ouvrir le rideau sur ces réalités et nous allons passer un peu de temps à nous y intéresser. On peut passer. Commençons par parler du contenu de la création de Dieu. On peut y aller. Dieu a créé des choses visibles et des choses invisibles. Lorsque Dieu a créé le monde, il a créé une réalité qui est visible et une réalité qui est invisible. Notre monde, le monde dans lequel nous sommes, contient des réalités que nous pouvons percevoir à l'œil nu, et ce monde contient aussi des réalités que nous ne pouvons pas percevoir à l'œil nu. C'est le monde invisible. Alors déjà, en physique, on sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir. On sait qu'on ne peut pas voir certains éléments d'un atome. Il y a, par exemple, si vous pouvez, avec un microscope, voir les organites d'une cellule, mais vous ne savez pas voir certains éléments d'un atome. Ça ne se voit pas. Donc nous savons déjà que dans le monde physique, il y a des choses qu'on ne peut pas voir, même au microscope. Et nous savons aussi que, par exemple, même dans la vie humaine, nos émotions ne se voient pas. Donc nous, c'est quelque chose qui est quand même clair pour chacun d'entre nous, c'est que nous, il y a de l'invisible, même dans le monde comme ça, mais il y a aussi la réalité spirituelle et invisible que Dieu a faite. Le spirituel, ce sont donc les réalités qui appartiennent au monde spirituel. Le monde est donc beaucoup plus que ce que nous voyons. Notre monde est beaucoup plus que ce que nous voyons. On peut passer. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 16, nous dit, en parlant de Jésus-Christ, que Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, Jésus est celui par qui et pour qui toutes choses ont été faites. Et le texte nous précise que quand on dit « toutes choses », c'est les choses visibles et les choses invisibles. L'invisible fait donc partie intégrante de la création de Dieu. Même si dans les textes de la Genèse, on ne nous cite pas ces choses invisibles créées, en fait, elles sont contenues dedans et après, la Bible nous montre l'existence de ce monde invisible. Ce n'est pas parce que c'est invisible que ce n'est pas une réalité. Ça, c'est très important. Ce n'est pas parce qu'on nous parle d'une réalité qu'on ne voit pas qu'elle n'existe pas. Elle, nous ne la voyons pas, mais elle nous affecte, elle nous touche et elle est bien autour de nous. C'est ce, enfin, si, c'est moi, oui. Donc, c'est toi, ok. L'invisible est au cœur de la foi. Les choses, Hébreux 11, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte qu'on voit, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. En fait, la foi, c'est s'aventurer dans le monde invisible. Croire, c'est placer sa confiance dans des choses que l'on ne voit pas. Et en particulier, ce texte nous dit que par la foi, nous croyons non seulement que Dieu existe, mais nous croyons aussi que le monde a été formé, que le monde visible que nous voyons a été formé à partir de réalités invisibles. Et donc, la foi, quelque part, vivre dans la foi, c'est accepter l'invisible, c'est porter son regard vers l'invisible. Et donc, dans l'invisible, il y a le monde spirituel. Vous voyez que la notion d'invisible, elle est au cœur de la foi. Et on verra aussi que ça a beaucoup d'implications pour le monde d'aujourd'hui. L'invisible est au cœur de la foi. Les choses visibles proviennent de l'invisible et le chrétien est censé être quelqu'un de préoccupé par l'invisible. Un chrétien doit être conscient des réalités invisibles. Alors bien sûr, avant tout, de la réalité de Dieu lui-même, qui est invisible, la réalité du Père, du Fils, du Saint-Esprit, de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, qui sont des choses invisibles, mais aussi par les réalités spirituelles qui sont autour de nous et qui sont invisibles, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont visibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc nous devons porter notre regard sur l'invisible et nous devons tenir compte de l'invisible dans notre vie. Car nous marchons par la foi et non par la vue. La foi s'attache à ce qu'on ne voit pas. La foi concerne ce qu'on ne voit pas. Et donc marcher par la foi, c'est bien sûr faire confiance à Dieu, marcher sur base de la parole de Dieu, mais c'est aussi marcher en tenant compte de ce qui se passe dans la réalité invisible, dans la réalité que l'on ne voit pas. Dans le symbole de Nicée-Constantinople, vous savez que dans l'histoire de l'Église, on a formalisé la foi dans ce qu'on appelle des symboles, c'est-à-dire des confessions de foi qui concernent l'ensemble de l'Église. Alors vous connaissez tous le symbole des apôtres, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur ». C'est un résumé de la foi de l'Église universelle. Alors je précise que ce symbole des apôtres est partagé par toutes les églises chrétiennes, qu'elles soient catholiques, orthodoxes ou autres. Et en fait, il y a un symbole, qui est le symbole de Nicée-Constantinople, qui, à l'époque, donc en 325-381 après Jésus-Christ, précisait déjà, alors maintenant on ne l'utilise plus beaucoup, mais déjà à l'époque, c'était « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. » Aujourd'hui, on ne dit plus que « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. » Mais à l'époque, les chrétiens avaient pensé que c'était important de dire « de l'univers visible et invisible ». Nous ne croyons à l'univers visible et invisible, nous croyons aux choses que l'on voit et aux choses que l'on ne voit pas, c'est extrêmement important. Donc comprenez qu'un chrétien croit ça. C'est pas quelque chose que certains ont inventé, c'est une réalité qui est pesante dans la Bible. La présence du monde invisible. Choses invisibles, de quoi parle-t-on? Quand on parle de choses invisibles, on parle d'anges, on parle d'esprits, on parle d'êtres spirituels. Par rapport à ça, vous pouvez avoir l'exemple des quatre êtres vivants d'Apocalypse. Certains estiment que ce sont des anges, d'autres disent que ce sont des êtres spirituels d'une toute autre nature que les anges. Dans les choses invisibles, il y a les démons ou ce qu'on appelle les esprits méchants. Et vous savez que Jésus avait toute une part de son ministère consacré à faire reculer les œuvres des ténèbres, à annoncer l'évangile pour délivrer les captifs. Mais quand il dit délivrer les captifs, c'est pas des gens qui sont en prison, c'est des gens qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Et donc c'est une part du ministère de Jésus et c'est une part de l'effet de l'évangile et de l'effet de la parole de Dieu, c'est de libérer les gens qui sont sous l'emprise de l'ennemi, qui sont notamment sous l'emprise de démons. Lorsqu'on parle de choses invisibles, on parle aussi d'entités spirituelles. Il y a les anges, il y a les démons, mais il y a aussi des entités spirituelles ou des objets spirituels. Par exemple, la Merkava, c'est un objet, c'est une entité spirituelle. Vous savez ce que c'est la Merkava? C'est un char de feu. Donc la Merkava, c'est le char de feu, notamment, vous voyez le char qui a emmené Élie, c'est ce qu'on appelle la Merkava, le char de feu. Mais on pense, dans la tradition biblique, on pense qu'en fait la Merkava, c'est le char qui vient chercher les serviteurs de Dieu. C'était le cas d'Élie, mais peut-être que c'est la Merkava qui est aussi venue chercher Enoch. Vous savez qu'Enoch n'est pas mort, il a été enlevé. Par quoi a-t-il été enlevé? Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est un exemple. La Merkava, c'est pas un ange. C'est une entité spirituelle et qui a une réalité. Mais aussi, dans les choses invisibles, il y a les structures spirituelles, les autorités spirituelles. Tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Dans les puissances spirituelles, on a ce que la Bible appelle à plusieurs reprises les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. Alors, quand on parle de puissances spirituelles, il y a les puissances spirituelles hostiles et les puissances spirituelles amicales. Et par rapport à ça, dans Éphésiens 6, 12, vous connaissez ce verset qui dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les autorités, les dominations dans les lieux célestes. » Donc c'est de ça qu'on parle. Ce sont des autorités spirituelles, des puissances spirituelles. Attention, le monde des ténèbres n'est pas une blague. Ce n'est pas un fruit de l'imagination. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Et c'est pourquoi l'occultisme, la magie, les invocations, le spiritisme ne devraient avoir aucun droit de cité parmi les enfants de Dieu. Non pas parce que nous pensons que ce sont des choses idiotes, ridicules, mais parce que nous savons que ce sont des réalités. Et ce sont des réalités que nous ne devons pas banaliser. Et c'est important que tous nous soyons absolument conscients que s'il ne faut pas toucher à ces choses, c'est parce que le monde spirituel ténébreux est une chose qui existe. Et que l'enfant de Dieu doit toujours chercher à s'éloigner de ces choses et à rester dans la volonté de Dieu. J'associe à ça tout ce qui est voyance, tous ces trucs-là. Ne touchons jamais à ça. Parce que ce sont des choses qui existent vraiment. Je me souviens d'un jeune garçon qui avait grandi dans l'église. Il avait fait toute sa petite enfance dans l'église. Il avait grandi, etc., etc. Et un jour, je le croise dans le bus. Il avait bien changé d'apparence. Il était tatoué de partout. Il était voilà. Alors je lui demande et ta foi et comment ça va et où est-ce que tu en es. Je dis moi, croire en Dieu, j'ai un peu du mal. Par contre, le diable, il est puissant. Il existe et il vit. Donc lui, il avait compris que le monde spirituel ténébreux était une réalité, mais il ne voulait pas faire le pas de se tourner vers le Dieu qu'il aime. Donc premièrement, ça nous montre que, premièrement, la réalité du monde ténébreux, nous pouvons tous l'apercevoir. Nous pouvons tous percevoir que nous sommes dans un monde dans lequel il y a des choses qui sont là et qui en même temps ne sont pas bonnes. Vous voyez un peu l'idée? Mais en même temps, ce sont des choses qui parfois peuvent attirer les gens. On se sent attiré par ce qui est ténébreux. On se sent attiré par les choses négatives plutôt que attiré par Dieu. Prenons garde. Prenons garde aussi à la banalisation de ce qui est le monde des ténèbres. Alors, vous avez ici une image d'Halloween. Bizarrement, je ne sais pas, ou alors j'ai un mauvais calendrier, mais les caissières ont déjà des trucs. Et pourtant, il me semblait que c'était en fin octobre, mais apparemment, c'est déjà le moment. Alors, indépendamment de parler de la fête en elle-même, le premier problème de ce genre de fête, c'est que ça banalise et que ça donne l'impression que c'est de la blague. Et donc les gens, et en particulier les enfants, grandissent dans un monde dans lequel ils s'imaginent que, en fait, jeter un sort, c'est marrant, ben oui, mais en fait, ce sont des choses qui existent dans le monde. Et la seule chose que nous avons à savoir de ces choses, c'est que nous n'avons pas à les toucher. On n'a rien d'autre à savoir, on ne doit pas se poser d'autres questions, on ne doit pas faire d'investigation, mais on doit savoir qu'on doit s'en éloigner. Et on doit savoir que nous sommes victorieux par rapport à toutes ces choses. Le chrétien ne doit pas être dans une position de peur, d'angoisse, mais il doit savoir qu'il marche avec Jésus-Christ, victorieux, qui, comme Frédéric nous l'a rappelé, a livré toutes ces dominations, toutes ces autorités au spectacle et qui nous a rendus victorieux. Mais ça n'empêche pas que nous devons faire attention, puisque vous savez que même des serviteurs de Dieu dans la Bible se sont fait avoir. Pensons par exemple à Saül. L'organisation du monde invisible, c'est bizarre, hein, il y a des moments, c'est moi. Je ne sais pas. Bon. Donc dans le monde créé, il y a le monde visible et le monde invisible. Donc nous sommes dans le monde créé, le monde visible, le monde invisible. Et dans le monde invisible, il y a le monde invisible qu'on pourrait dire bon et le monde invisible qu'on pourrait dire mauvais. Le monde invisible négatif, le monde invisible qui n'est pas le monde de Dieu. Alors le monde invisible bon, il est fait du ciel, mais aussi de la du ciel. Mais quand on dit le ciel ici, c'est la réalité, le ciel spirituel, hein, donc pas le ciel physique, avec des anges, avec différents niveaux de hiérarchie. Donc il y a tout un ensemble d'anges. Les anges n'ont pas tous la même fonction, ils n'ont pas tous la même place. Ils ont une hiérarchie. Le monde spirituel angélique est un monde organisé. Hein, avec des chefs d'armée, avec tout un ensemble de réalités. Et les anges aussi n'ont pas les mêmes fonctions. Certains anges ont une mission de parole, ce sont des anges annonciateurs, d'autres anges sont des anges guerriers, d'autres anges sont des anges qui transportent des choses et qui les amènent, d'autres anges sont des anges qui sont uniquement dédiés à la louange de Dieu, ils ne font que ça. D'autres anges sont des anges qui sont dédiés à la protection des enfants de Dieu. D'autres anges sont des anges qui sont affectés à l'accompagnement du peuple de Dieu, par exemple dans des cultes, dans des moments de louange. Donc les anges n'ont pas la même fonction, ils n'ont pas le même rôle et ils ne sont pas placés au même endroit. Alors le monde invisible mauvais, vous en doutez, c'est un monde qui est commandé par Satan, par l'ennemi du peuple de Dieu. Et c'est un monde dans lequel il y a une hiérarchie aussi, et c'est comme ça qu'on parle de domination, de principauté, d'autorité. Ce sont aussi des éléments du monde spirituel. Attention, le monde mauvais n'est pas si loin de nous. Alors, quand je dis ça, ce n'est pas dans le sens que nous devons en avoir peur, mais c'est dans le sens, Éphésiens 1 à 2 nous dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit. » Donc le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, c'est le diable, « qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Donc le texte nous dit, « Vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon... » Donc en réalité, nous devons comprendre, et je sais que c'est quelque chose d'extrêmement difficile à accepter, c'est vraiment pas facile, mais le monde est divisé sans zone intermédiaire entre le monde qui est sous l'influence de Dieu et le monde qui est sous l'influence de l'ennemi, il n'y a pas de zone intermédiaire, vous voyez ? Donc par défaut, quand on vit sans connaître Dieu, on vit, selon la Bible, sous la pensée du monde, d'accord ? Dans la pensée du monde, donc le monde ici au sens de cette manière de faire qui s'oppose à Dieu, ok ? Et donc on est sous l'influence de l'ennemi. D'ailleurs, c'est le concept même du monde. C'est ce qui est rebelle à Dieu et ce qui est conduit par l'ennemi. Et donc, le monde, quelque part, nous y vivons. Nous sommes dedans, nous vivons dans le monde. Et ce monde est vraiment influencé par des idées, des pensées, des façons de faire que l'ennemi institue, qu'il partage et dans lesquelles il fait vivre le monde. Et d'ailleurs, 1 Jean 5, verset 19 nous dit « Nous savons que nous sommes de Dieu, nous, enfants de Dieu, nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Donc vous voyez que, quelque part, on pourrait parfois penser que, quand on dit le malin, que c'est un endroit spécifique ou quoi, mais en réalité, il dit, c'est le monde entier qui est conduit par cela, mais nous, nous sommes de Dieu, mais nous sommes enfants de Dieu. Alors nous devons pour cela lutter contre notre cartésianisme occidental. Le cartésianisme occidental, c'est cette pensée cartésienne qui est attachée aux faits, qui est attachée à la réalité, attachée à ce que l'on voit. Pour des occidentaux, c'est parfois compliqué d'accepter le monde invisible, parce que nous sommes formatés par une pensée qui consiste à dire « ce que je vois existe ». Ce que je peux comprendre est vrai, ce que je peux toucher est vrai, et tout ce que je ne vois pas n'a pas réellement de réalité. Donc nous devons parfois nous battre par rapport à ça, parce que comme occidentaux, nous pouvons peiner à nous ouvrir au monde invisible, et cela peut nous mettre en difficulté, puisque si vous allez dans certaines églises, vous avez des théoriciens de première catégorie surtout. Mais une fois qu'ils se retrouvent placés dans une circonstance où le monde invisible est impliqué, ils ne savent pas. Donc il faut qu'on se rende compte que c'est un monde qui existe. Alors, béni soit Dieu, nous vivons dans la grâce de Dieu avec lui, mais nous ne devons pas oublier que en allant parler de Jésus autour de nous, nous pouvons un jour tomber sur quelqu'un qui est concrètement sous l'influence de l'ennemi. C'est des choses qui arrivent. Vous pouvez avoir dans vos familles des gens qui ont touché à l'occultisme, par exemple, et à cause de cela, qui sont dans des difficultés. Et il faut qu'on puisse être suffisamment ancré dans la parole que pour savoir que nous pouvons faire quelque chose pour ces gens. Nous pouvons prier pour eux. Nous pouvons les accompagner à venir à Jésus. Nous pouvons les aider à se libérer de ce qui les oppresse. C'est important que nous le sachions et que nous ne vivions pas un peu comme ça avec des œillères ou en nous contentant de ce que nous voyons. Alors je vais essayer d'aller vite pour la fin puisqu'il ne reste que 5-6 minutes et que vous êtes pressés comme d'habitude, que vous n'avez pas le temps. Voilà, donc ça je connais, j'ai l'habitude. Donc, le monde spirituel, pourquoi c'est important que nous connaissions le monde spirituel? Premièrement, parce que le monde spirituel influence le monde physique. Deuxièmement, parce que nous pouvons influencer le monde spirituel. C'est pour ça que c'est important que nous le sachions. Premièrement, le monde spirituel influence le monde physique. Je vais donner pour cela un exemple, et je vais quand même le lire en entier, même si vous êtes pressés, parce que voilà. Nombre chapitre 22, versets 23 à 25, et c'est à titre d'exemple pour que vous voyez ce que ça veut dire. L'ânesse sur laquelle Balaam est assis vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes, il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit que l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. La situation est simple, Balaam est sur son ânesse et l'ânesse de Balaam voit dans le monde spirituel l'ange de l'Éternel qui est devant elle, devant eux, et qui a l'épée nue, l'épée dégarnie. Donc c'est un symbole du moment où l'ange de l'Éternel vient pour des choses pas forcément très agréables. L'ânesse voit l'ange de l'Éternel et elle se détourne. Balaam la frappe en disant « Mais qu'est-ce que tu fais? Écoute-moi. » Ensuite, l'ange se déplace et l'ânesse frotte le pied de Balaam contre le mur et il frappe son ânesse. Donc c'est pour montrer qu'en réalité, il y a des choses que nous voyons dont l'origine est spirituelle. Vous voyez ? Donc Balaam n'a fait que constater le fait que son ânesse se déplaçait. Mais en réalité, la raison pour laquelle l'ânesse se déplaçait était dans le monde spirituel et il ne la voyait pas. Vous voyez ? Et quelle est sa réaction à lui ? Il intervient sur le monde physique, il la frappe. En pensant que c'est ça le problème, alors que le problème est spirituel et que ça doit l'interroger sur une réalité spirituelle. Donc ça, c'est notre cas parfois, lorsque nous nous battons contre un problème avec des armes physiques, en se disant « il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas » et nous ne percevons pas qu'en réalité la source est spirituelle. Vous voyez ? Et donc c'est important qu'on connaisse le monde spirituel parce qu'il peut y avoir des moments, et je vais venir tout à l'heure sur l'attitude à avoir, hein, parce que... Voilà. Mais il y a des moments où c'est important que Dieu ouvre nos yeux pour qu'on voit ce qui se passe derrière et qu'on comprenne pourquoi ce qui se passe se passe. Sinon, on peut être comme Balaam, comme des petits idiots qu'on mène à la baguette. Il frappe son ânesse et il ne sait pas qu'en fait c'est pas ça le problème et qu'il doit voir le monde spirituel. Donc la réalité purement spirituelle peut impacter la réalité de notre vie et il est donc important que nous soyons conscients de cette réalité. Ce que nous voyons peut avoir une origine spirituelle. Je vais donner quelques exemples rapidement, très rapidement parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps et que vous êtes très pressés. Je vais vous donner un exemple. On peut donner un exemple d'un esprit, par exemple un esprit de discorde. Vous pouvez être là dans une réunion d'assemblée, c'est un exemple. Vous êtes là en train de parler, vous discutez, voilà, ça se passe bien. Et puis tout à coup, vous vous rendez compte que ça commence à monter, les gens commencent à s'énerver les uns contre les autres, et ça se dispute, et finalement la réunion devient ingérable, incontrôlable, et ça explose. Vous pouvez commencer à dire, mais c'est de la faute de... Qui est-ce que je vais prendre ? de Tina. C'est de la faute de Tina. Chaque fois qu'elle intervient, c'est la catastrophe. Mais en fait, la Bible nous montre qu'il y a des esprits de dispute, des esprits de discorde qui peuvent s'inviter au milieu des enfants de Dieu pour troubler des moments où on doit avancer et vous avez un esprit de dispute qui vient et qui, parfois sans raison, met les choses en difficulté. Donc vous ne comprenez même pas ce qui se passe. Vous observez simplement qu'il y a un truc qui est en train de se passer et ce truc n'est pas tout à fait d'origine physique. Alors encore une fois, ce n'est pas quelque chose où on va commencer à dire « Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la fin du monde !» C'est pour ça qu'on prie Dieu qu'il éloigne ce genre de choses. Mais vous voyez un peu l'idée, une réalité spirituelle qui nous impacte physiquement. Un autre exemple aussi, c'est des pestes, des famines, des épidémies, des destructions qui ont des origines spirituelles. Là, vous lirez 1 Chronique 21, 18, où on parle de l'ange de l'Éternel, encore une fois, avec son épée nue, encore une fois. Donc là, c'est quand c'est très problématique. Et là, en fait, l'ange de l'Éternel allait détruire sur base du dénombrement que David avait fait. Et donc, vous voyez qu'il y a aussi des phénomènes physiques qui peuvent parfois être enclenchés par le fait qu'un ange, par exemple, vient accomplir un jugement de Dieu. Alors, à l'époque du Covid, il y avait des gens qui inventaient que c'était un jugement de Dieu, etc., etc. Alors, je ne dis pas que c'est vrai, loin de là, ne vous inquiétez pas. Mais il faut comprendre que le raisonnement a du sens. Je ne dis pas que c'est vrai, comprenez bien. Je dis que ça a du sens parce que dans la Bible, ça existe. Dans la Bible, on voit par exemple des épidémies, des pestes qui ont une origine spirituelle, qui sont des fléaux que Dieu envoie. Et donc, il faut comprendre que c'est des choses qui existent. Ce n'est pas le cas du Covid, ce n'est pas ce que je dis, mais ça existe. Il faut aussi comprendre, je vais terminer par là parce que vous êtes très pressés, mais donc il y a aussi des attitudes qui peuvent être créées par des influences démoniaques. Par exemple, dans Jean chapitre 13, verset 27, je vous dis que si vous lisez les évangiles, tout est là, hein, donc c'est pas caché dans la Bible. Il est dit, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Vous voyez que Judas a accompli ce qu'il a accompli sur base d'une influence, l'influence de l'ennemi directement. Satan entra en Judas. Donc, vous, si vous regardez physiquement, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez Judas. Mais en fait, il y a quelqu'un qui est en train de diriger Judas. Ce qui fait dire à certains commentateurs qui ont tout à fait raison, ils disent que les gens qui ont été arrêtés Jésus suivaient Judas, puisque Judas leur montrait qui c'était. Mais en fait, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de suivre Satan. Parce que c'était lui qui le conduisait. Donc c'est pour donner un exemple, de dire, faisons attention, parce que parfois aussi, des gens peuvent nous influencer dans une voie ou dans une autre. Nous croyons que ce sont des gens normaux, mais en fait, ils ont autre chose derrière. Comment est-ce qu'on fait pour savoir ça? On prie pour avoir du discernement. Et en priant pour avoir du discernement, Dieu peut nous montrer que telle personne, justement, n'est pas en train de nous orienter vers le bien, n'est pas en train de nous conduire vers la volonté de Dieu, mais qu'au contraire, vous voyez un peu, c'est pour ça qu'on doit faire attention, parce qu'on est dans un monde spirituel. Autre exemple, guérison apportée par un ange, protection apportée par un ange, on pense que les anges agissent parfois dans une protection. Il y a une histoire que vous connaissez que je pourrais rappeler ici, mais vous n'avez pas le temps. Donc je ne vais pas la rappeler. C'est une super histoire, hein. Vraiment, ça, vous l'aimeriez beaucoup, mais on n'a pas le temps. À part si vous insistez, bon, là, mais... bon, non, mais en fait, mais vous connaissez l'histoire, alors c'est une histoire racontée, mais vous connaissez l'histoire de cette jeune fille qui un jour était dans une ruelle, une ruelle où des hommes attendaient souvent pour agresser des jeunes filles, et que un jour, finalement, on attrape les bandits qui auraient dû l'agresser alors qu'elle est passée dans cette ruelle. Et les bandits disent, bah, écoutez, on ne vous a pas agressé parce qu'on a vu deux grands hommes à côté de vous, hyper impressionnants, qui marchaient juste à côté de vous. Elle dit, mais moi, j'étais toute seule. Et c'est comme ça qu'on comprend, en tout cas, elle a interprété les choses comme étant que deux anges se sont placés à côté d'elle. Ces anges-là n'étaient pas visibles par elle, mais ils étaient visibles par les autres. Donc Dieu peut aussi ouvrir parfois notre esprit à ce que nous voyons, ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est des choses qu'on trouve dans la Bible. Voilà, alors, les actions aussi des démons sur les hommes, oppression, influence, voilà. Nous pouvons aussi, nous, influencer le monde spirituel. Et là, on arrive vraiment à la fin, je vais très vite. Le monde spirituel est aussi affecté par des actes que nous posons. C'est pour ça que c'est important que nous le sachions qu'il existe. Par exemple, il est connu dans la Bible que certaines attitudes affectent la présence des anges. Il y a des choses qui font fuir les anges. Donc si nous voulons que les anges soient quelque part, il y a des choses que nous devons savoir, que nous ne devons pas faire. Mais aussi, nous pouvons influencer le monde spirituel par la prière. Nous pouvons influencer le monde spirituel par nos prières. Par exemple, nos prières peuvent déclencher l'action des anges. Dans Acte 12, il est absolument évident que l'intervention de l'ange auprès de Pierre est liée aux prières de l'Église. Donc, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église priait pour Pierre, et tout de suite, le texte nous dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison, et voici, un ange du Seigneur intervient. Vous voyez ? C'est la prière de l'Église qui est à l'origine de l'intervention du monde spirituel. D'où l'importance qu'on prie. On ne sait pas ce qui se passe quand on prie. C'est ça qu'on dit. Le monde, nous pouvons influencer le monde physique. Nous n'avons pas idée de ce qui se passe lorsque nous prions dans le monde spirituel. Alors prions, frères et sœurs, prions. La louange aussi impacte les réalités spirituelles. Le fait de louer Dieu impacte les réalités spirituelles. Vous connaissez Acte 16 où Paul et Silas sont en train de prier, de chanter et les portes de la prison tombent, tremblement de terre. Même chose aussi dans le texte de Jéricho. La louange impacte les réalités spirituelles. 1 Samuel 16, 23 nous parle du fait que Saül était tourmenté par un esprit que Dieu avait envoyé pour le tourmenter, mais lorsque David prenait la harpe et jouait de sa main, alors le mauvais esprit se retirait de lui. Vous voyez que la prière, la louange, tout un ensemble d'actes que nous posons ont un impact dans le monde spirituel et que nous ne devons donc pas les négliger. Nous devons donc ouvrir les yeux sur les réalités spirituelles. Dans 2 Rois, je vous invite à lire ce texte, mais qui est vraiment au cœur de ce que nous parlons ici. Vous voyez le moment où Élisée prie pour son serviteur et où il dit, donc ils sont en pleine période de combat, et où il dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc en fait, Élisée prie pour que son serviteur voit le monde spirituel. Et il voit, effectivement, et il se rend compte de ce qui se passe, c'est que l'Éternel est avec eux en train de leur donner la victoire, c'est qu'il y a des chars de feu qui sont là, il y a une... Mais nous, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit conscient que quand on agit, il y a aussi le monde spirituel qui nous accompagne, le monde de les anges de Dieu qui nous accompagnent. Alors, je termine, c'est la conclusion. Deux extrêmes à éviter. Premier extrême, qui peut parfois être celui de beaucoup d'entre nous, c'est de vivre dans la totale ignorance ou dans la totale négation du monde spirituel. Nous vivons comme si ça n'existait pas, nous négligeons complètement cette réalité alors qu'elle est bien là, et nous ne tenons pas compte de ce que la Bible dit à ce sujet, et donc nous voyons le monde de façon charnelle uniquement. Donc nous sommes le Balaam qui frappe son âne, parce qu'il ne sait pas qu'il y a des choses spirituelles qui se jouent. Autre extrême, c'est évidemment l'extrême que vous connaissez et qui existe aussi dans le monde chrétien, qui consiste à voir le monde spirituel partout. Nous voyons des démons partout, nous voyons des anges partout, et nous passons nos journées à parler de ça, à croire. C'est un autre extrême que nous devons éviter. Le, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons un chrétien qui connaît la parole de Dieu, qui sait que ces choses existent, et qui aussi adapte ses attitudes par rapport aux choses qu'il connaît. La parole de Dieu doit transformer notre image du monde, et nous devons être capables de nous comporter en tenant compte de ça, dans notre façon de prier, dans notre façon de vivre en église, dans notre façon de nous comporter dans nos maisons, dans ce que nous acceptons de dire, de faire, de voir. Nous devons toujours être bien conscients que cette réalité existe et que Dieu nous donne les outils nécessaires pour vivre dans cette réalité. Vivre comme des personnes spirituelles, être conscient du monde spirituel et ne pas en rester à la théorie de la foi, mais savoir qu'il y a aussi une réalité qui est autour de nous et elle est bien réelle. Voilà pour aujourd'hui. Nous continuerons la semaine prochaine. En attendant, j'espère que ces différents éléments pourront uniquement faire une chose, c'est nous encourager. Pourquoi nous encourager ? Parce que nous qui avons Jésus-Christ dans nos vies, l'Esprit de Dieu a ouvert nos yeux pour que nous voyons le monde tel qu'il est vraiment. C'est un privilège que nous avons. Beaucoup de nos condisciples, de nos contemporains, vivent dans l'ignorance totale du monde spirituel. Ils ne savent pas que ça existe. Nous le savons. Nous avons les outils pour agir, nous avons ce qu'il faut, nous voyons le monde tel qu'il est vraiment et c'est une grâce de Dieu. Alors avançons dans ce privilège, dans cette joie de tout ce que Dieu nous a donné dans sa parole, tout ce qu'il nous permet de connaître, et sachons que Dieu nous donne les armes nécessaires pour être victorieux et pour vivre à sa gloire. Amen.